insupportable. Vous avez de la merde dans les oreilles, c'est pas possible.
J'ai jamais vu ça, c'est un hallucinant. Vous avez 16 ans, mademoiselle, et vous avez tout pigé, puis vous nous donnez une grande claque dans la figure. Oh, vous pouvez être vraiment notre petite Amy Winehouse à nous.
Vous avez de la merde dans les oreilles, c'est pas possible.
Deux salles, deux ambiances, ils ont découvert Amel Bent, Christophe Willem et Julien Doré. Ils sont juste passés à côté de Quentin Luy et Manon Mariani. Oui, on se demande comment, mais enfin, nul n'est parfait. Marianne James, André Manoukian, bonjour.
Bonjour.
Merci. Vous allez nous chanter quoi?
Alors attendez, ça va venir, vous pressez pas. Ça risque d'arriver. Marianne James, chanteuse, auteure, compositrice, jurée historique de la Nouvelle Star de 2004 à 2007. Et André Manoukian, auteur, compositeur, vous avez rejoint Nouvelle Star, vous, au tout début de l'aventure, dès 2003. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce programme, André, pourquoi vous avez accepté d'être juré dès la première saison de La Nouvelle Star, alors qu'à l'époque, c'était payé, disiez-vous, comme sur Radio Pologne.
C'est vrai. Bah, moi, je suis un amoureux des voix, je l'ai toujours dit, quoi. Tout d'un coup, c'est la rencontre avec la voix qui a changé un peu ma carrière. Avant, j'étais un ayatollah du jazz. Pour moi, je ne faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder, ça n'avait aucun intérêt. Le chant, non, mais c'est vrai, franchement. Et puis un jour, dans un studio, je rencontre une figure incroyable, une jeune fille d'une très grande beauté. Elle ressemblait à Nefertiti. Et puis, je faisais un album, je lui dis, vous voulez bien poser une voix? Et là, révélation. Épiphanie, transpiration de la moustache, et j'avais découvert mon instrument, et je me suis consacré à partir de ce moment-là beaucoup aux voix.
Et c'était qui ?
La chanteuse, elle s'appelle Elisabeth Contomano, elle a fait une carrière dans le jazz, génial et tout. Puis après, il y a eu Liane Folie, après il y a eu Malia, après il y a
toujours
eu...
toujours ces voix qui vous ont
toujours
suivi.
Les voix, le mystère de la voix.
Et vous, Marianne, pourquoi vous avez rejoint la saison 2 à cause d'André, évidemment, vous étiez fascinée
moi,
par
Manoukian. J'avais voté pour Amiel, la première saison, j'étais chez moi. Je trouvais que le programme était pur, parce qu'en même temps, marcher et cartonner sur une autre chaîne, un programme qui s'appelait la Star Academy, dans lequel ils en étaient quand même à surtitrer ou sous-titrer ce qui se racontait avec caméra infrarouge sous la couette la nuit, où cuisine, il y avait écrit cuisine, au cas où ils auraient eu envie de pisser dans les nez, et où WC, il y avait écrit WC, et où on les faisait courir tôt le matin, etc. On n'entendait jamais les coachs, on n'entendait jamais des super coachs qu'il y avait au piano, les professeurs et tout. Et je disais, nous, au moins, enfin, eux, avant que je dise nous, ce qu'il y a de génial dans le programme Nouvelle Star, c'est pur. On parle de chansons, ils font leurs chansons, on ne sait pas où ils dorment et avec qui. On s'en fout d'ailleurs, et j'aimais bien les deux loustiques, le Atia et le...
J'imagine. Et c'était pas de la télé-réalité, c'était un télécrochet.
Pour moi, ça n'a jamais été de la télé-réalité.
Voilà, bah, un télécrochet. Et vous faisiez quoi en 2003, André Manoukian? Lui travaillait quasi gratuitement pour M6. La Nouvelle Star démarrait. On se replonge dans cette année marquante avec Marianne James et André Manoukian. Actu, cinéma, politique et bien sûr musique. Zoom, zoom back, direction 2003. C'est parti. Et rappelons-le d'emblée, le jury de la Nouvelle Star n'était pas méchant. Comme le dit André.
On n'était pas méchant, on était bouddhiste. On nous envoyait de la merde, on renvoyait de la merde.
Une interprétation assez personnelle du bouddhisme. Je ne sais pas si Mathieu Ricard serait d'accord avec ça, mais pourquoi pas. On ne les tient pas. Je sens, Marine, que vous voulez déjà réagir sur ce côté bouddhiste de l'émission Nouvelle Star.
Mais je n'ai jamais entendu cette réflexion. Il faut que André sorte ce petit livre, le petit Manoukian illustré.
Ah oui.
Ou que sais-je Manoukian.
Bouddha dit, on n'est jamais dans l'action, on est toujours dans la réaction, en réalité. Hein, voilà.
Donc, oui, c'est un raccourci du bouddhisme, mais c'est pas complètement faux.
Le bouddhiste en deux secondes, quoi.
Et c'est le moment où je vous accueille, normalement, dans l'émission, puisque là, on est déjà parti en vrille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen en mode Zoom Zoom Back. Tous les vendredis, on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante. Aujourd'hui, en compagnie de Marianne James et André Manoukian, direction 2003. Un générique retentit pour la première fois sur M6. À l'évidence, il n'a pas été composé par André, qui, non content de bosser déjà quasiment gratuitement, n'allait pas en plus fournir un habillage sonore de qualité pour les beaux yeux de Nicolas Taverneau. Donc ce sera ça, une boîte à rythme, un clavier bon tant pis et rouler jeunesse. En même temps, qui aurait pu imaginer, surtout en voyant la dégaine d'André à l'époque, qui portait encore des chemises Daniel Echter, que le télécrochet durerait 12 ans et deviendrait culte, faisant éclore des artistes comme Camélia Jordana, Christophe Willem, Julien Doré. Mais pas, on l'a dit en préambule, Manon et Quentin. C'est la grosse tâche indélébile sur le CV de nos invités, la faute professionnelle impardonnable, mais l'heure de la deuxième chance a sonné, peut-être pas pour Manon, car là je rappelle le verdict de Marianne lors des auditions.
C'est si loin, tout s'efface.
Vous chantez faux comme une casserole.
Donc là, bon, on part de trop loin dans le bouddhisme. Mais qui sait ? Qui sait ? Pour Quentin, Quentin n'a jamais vraiment abandonné la musique. Il nous l'a prouvé d'ailleurs lors de ce magnifique duo improvisé avec Dave l'autre jour. Oh, une vraie claque de modernité. Deuxième chance, et peut-être possible, Marianne, André, écoutez bien.
Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde.
Alors Quentin mérite-t-il d'aller à Valta ?
Ouais, ça va.
Ça va.
Il y a quelque chose de doux qui se dégage.
Il y a quelque chose de touchant, je dirais.
C'est ça. Oui. Moi, je dis que peut-être il peut faire des voix pour nous endormir tranquillement et tout. C'est vrai.
Je fais de la radio. Je fais de la radio du coup.
C'est vraiment impitoyable le bouddhisme.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Alors, chère Marianne James, cher André Manoukian, on va remonter ensemble aux origines de la nouvelle star, se replonger dans cette année 2003 aussi. Juste le temps de vous présenter mes talents à moi, à commencer par celle qui nous est tout à l'heure dans l'ascenseur. Elle nous disait, moi j'étais fan de la nouvelle star.
Bah, oui.
Et elle nous disait cette phrase, je l'ai notée, j'ai une grosse perso, je suis mignonne, clairement j'aurais été prise.
À 16 ans
Non mais c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Mais mon père m'a interdit de passer le casting.
Quel dommage.
J'aurais peut-être,
on
se serait peut-être rencontré.
Foutu gâchis.
J'ai jamais été prise, précisons-le.
Vous auriez chanté au bout d'un moment.
Oui.
Et là l'histoire se serait arrêtée. Manon, une première fois en 2003.
Oui, en 2003, un jeu vidéo culte sortait sur ordinateur, le premier Call of Duty. Et oui, les jeunes de l'époque se donnaient rendez-vous dans les cybercafés pour jouer en réseau à ce jeu de guerre qui est devenu l'une des franchises les plus lucratives au monde.
En 2003, alors que les jeunes de son âge écoutaient 50 Cent, évidemment. Lui, il écoutait...
Oh non.
Par voie de conséquence, il avait assez peu d'amis en 2003, mais il s'est rattrapé depuis. Il a notamment plein d'amis à l'INA, qui lui mâche le travail chaque vendredi pour sa chronique complètement aux archives.
La guerre en Irak, Chirac qui dit non, et la canicule qui fait des victimes. La France, retour en 2003, à la belle époque où j'apprenais Cabrel à la guitare et où je jouais à GTA 3.
GTA 3,
sur PlayStation.
Vu du ciel ?
Oui.
Ah oui, non, pas que. Ah non, c'était déjà en 3D. Ah, c'est GTA 2, moi je suis encore
c'est
plus vieux
que vous. GTA, c'est des courses ?
Non,
c'est un jeu horrible où on tue des gens dans la rue, vous savez ?
On incarne des voitures,
on incarne un bandit, on vole des voitures. Oui. Encore un titre que Quentin aurait dû écouter en 2003 plutôt que le nouveau single de Florent Pagny. Les White Stripes explosaient cette année-là. Notre spécialiste musique Camille Diao viendra nous parler de ce groupe qui a un peu mieux marché qu'Intérieur Nuit, le groupe dont Quentin était le lead singer. Enfin, lead singer, c'est beaucoup dire. On rira aussi avec celle qui visiblement a besoin de sous en ce moment, puisqu'elle est désormais aussi avec nous le vendredi, qui était avant son jour off. Marie Debreuer sera là en fin d'émission. Mais d'abord, retour donc en 2003. Nouvelle star arrive sur M6. Benjamin Castaldi à la présentation. André Manoukian déjà dans le jury. Marianne James rejoindra le jury l'année suivante. Ils sont tous les deux nos invités cet après-midi. Ce qui a fait le succès de l'émission, au-delà des artistes, c'était quand même, il faut bien le dire, sans fausse modestie, c'était vous le jury, c'était aussi vous qu'on venait retrouver, on venait retrouver vos punchlines.
Je suis d'accord. C'est nous qui avons fait. Non, mais c'est nous. Ben voilà. Je vous dis, on les voyait pas, les coachs de l'autre émission sur la chaîne. On les voyait pas, c'était en pointillé. Nous, on était vraiment là. On avait le droit de dire ce que l'on veut, d'être sapé comme on veut. Et on avait. Et surtout, on se déplaçait. On adorait aller à Rennes, à Bordeaux, à Marseille, faire la tournée vraiment de la province.
Vous étiez totalement libre ou on vous disait, je sais pas, la production vous disait plutôt. Bon, visiblement, André voulait intervenir.
Oui, là, je tiens à intervenir.
Oui.
C'est un jeu anglo-saxon, australien. Il y a une charte, il y a une bible. Un jour, on a vu arriver, donc, c'est les Anglais de la prod, OK ? Parce que c'est un jeu multinational.
D'accord.
Et donc...
American Idol, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et il y a eu une petite tentative de... Tiens, on va leur mettre une oreillette, genre histoire qu'on leur souffle des trucs. Et nous, innocemment, on se dit, tiens, l'oreillette, c'est pour nous dire, c'est fini, levez-vous, le café est servi. Enfin, on sait pas ce que c'est qu'une oreillette.
Non, c'est vrai. Le champagne vous attend en loge.
Non, mais tenez-vous droit.
Ouais, c'est
la coke, c'est la deuxième boîte. Bon.
Et toute une époque hein, de la
toute
télé.
On est tous les quatre, Marianne, Manu, Dove, moi. Les gars regardent et disent, tiens, l'oreillette, sur qui elle va moins se voir ? Ah bah, Marianne, elle a des beaux cheveux. Bouclé.
Ah, c'est vous qu'on
donc
a choisi.
On lui met une oreillette, nous on fait pas gaffe. Et tout d'un coup, pendant qu'on débriefe ou quoi, on voit Marianne qui fait. comme si elle recevait des chocs électriques. Et puis on sait pas ce qu'il lui disait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on a vu Marianne qui s'est levée, qui a arraché son oreillette et qui a regardé l'anglais, qui s'est mis à quatre pattes tout de suite en disant « Toi là, tu veux que je fasse les nazis ? C'est pas moi que tu vas apprendre ça, moi j'ai fait Ursula von Hey. » Et le gars, il s'est barré à quatre pattes, genre il y avait une tentative d'essayer de produire entre guillemets le jury. Ça a été la seule tentative.
J'étais en colère, ouais.
Ah oui, donc là ça a été fini.
Ah bah, on était jeté d'oreillettes. Le premier jour, ouais. Arrachage d'oreillettes et c'était un monsieur aux yeux très très bleus et lui il arrivait vraiment comme tu dis avec sa Bible, c'est-à-dire il faut que ça cogne d'entrée, il faut pas. Peut-être aussi qu'on avait un petit peu peur les premières journées d'être
d'y aller trop fort.
Tu rigoles pas du tout, mais simplement il fallait des personnages et tout, mais on savait pas ce que c'était que des personnages et finalement nous avons chacun accouché de notre propre personnage
et c'est tant mieux.
Qui est un concept bouddhiste aussi.
Aussi, on revient toujours au bouddhisme.
Si tu rencontres ton maître sur ton chemin, tue-le.
Décidément, le David Lama lui-même apprend des choses. Non, il m'a envoyé un SMS, il me dit non, c'est fou ce que j'apprends sur le bouddhisme. Lui aussi, il a fait partie du jury de la Nouvelle Star, mais nouvelle mouture quand même, si ça avait tenté de relancer le programme en 2017. Chou blanc, hélas, hein, il lui reste heureusement sa deuxième activité, la musique. On écoute Benjamin Biolay, Chaise à Tokyo sur France Inter.
Je veux m'asseoir sur une chaise à Tokyo, ça prendra le temps qu'il faut. Je prendrai un aller sans retour en avion cargo. Je veux m'asseoir sur une chaise à Tokyo, te prendre de haut dans une suite à l'hôtel Nico, sous les deux arbres du logo. Dans mon cas, dans mon bongo, une chaise à Tokyo. Dans mon cas, dans mon bongo, une chaise à Tokyo que je ne connais pas.
Écoutez Zoom Zoom Back, une heure pour revisiter une année marquante. On continue de se balader en 2003 avec nos invités Marianne James et André Manoukian, puisque notre fil rouge, c'est évidemment La Nouvelle Star. C'est en 2003 qu'M6 lance l'émission culte. Ça a été quoi, Marianne, votre plus forte émotion dans La Nouvelle Star, à part le moment où l'anglais s'est mis à quatre pattes quand vous avez jeté l'oreillette?
La plus forte émotion, la demi-finale 2006, juin 2006, on est une semaine avant la fête de la musique, il est 17h48.
Quelle mémoire.
Non, on a un duo Miss Dominique, Christophe Willem. Mmh. Et je crois que c'est Christophe Willem, après le duo, qui vient nous chanter le Dalida, là, qui nous a laissé par terre. Parce que même Katché a eu les yeux mouillés. Il nous a chanté « Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. » Et Willem, elle a commencé assis dans l'escalier. Et j'avais pas... Ce que j'aime avec ces gosses qui étaient face à nous, c'était vraiment des enfants à l'époque. Mmh. C'est que moi aussi, avec mon côté taliban du jazz ou du classique, de l'opéra, j'avais un petit peu oublié que des mélodies, qu'on ne devient pas Dalida si on n'est pas de toute façon unique, etc. J'avais pas jamais percuté que cette femme avait chanté des mélodies et des textes absolument...
Vous avez vous-même découvert...
Ouais, j'ai découvert par l'interprétation de Christophe, et je me rappelle avoir vu beaucoup d'émotions, peut-être que ça a résonné en moi, mais voilà, c'est une de mes plus fortes émotions. Et le Amel Bent, quand elle s'est fait virer en quart de finale, voilà, ça m'a beaucoup touché.
Vous vous attachiez, du coup, au candidat?
Oui,
André Manoukian.
Enfin, on s'attachait surtout. Ce qui était incroyable, c'est que quand on, c'était que toutes les années, on avait des nouvelles surprises, des nouveaux styles. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les mômes, je veux dire, réinterprétaient des chansons. Vous savez, l'art de la reprise, puisque c'était ça, ils chantaient des tubes. C'est finalement l'art le plus compliqué qui soit. C'est pas évident d'inscrire sa personnalité. Et moi, le souvenir qui me terrasse, c'est quand j'y pense encore, c'était Camélia Jordana, quoi, qui déboule et qui nous chante What a Wonderful World.
On va débouler. C'est la réaction que t'as entendue tout à l'heure.
Moi, je suis devant mon écran. Là, je n'y suis plus. Je suis devant mon écran. Je dis grand, grand, grand moment. Parce qu'après, les gens venaient beaucoup nous demander, mais vous l'avez quitté, est-ce que vous le regardez? Mais oui, j'ai souvent cité la Camélia. C'est juste admirable, ce passage-là. Ouais.
Vous l'avez nommé un tout petit peu tout à l'heure, mais vous sortiez de Paris pour aller en région, donc Rennes, Caen, pour faire les castings. À quel point c'était important de sortir de Paris pour dénicher des talents?
Ce qui était intéressant sur voilà, quand on allait se balader dans les villes de France, c'était que chaque ville avait son identité. Ouais. C'est ça qui était rigolo. Rennes, c'était très rock.
Très rock,
voilà, c'est ça. Marseille, c'était le pire et le meilleur. Ouais. Ça pouvait être complètement foutraque, du rap à la chanson néo, néo, je sais pas quoi d'ailleurs. Néo-bouddhiste peut-être. Lyon, c'était intéressant parce que ça venait de partout. Les Suisses, exactement.
Écoutez, franchement, avec les Suisses, on avait beaucoup du Stéphane Escher. À Rennes, on avait systématiquement du Piaf ou Always Lost in the Sea, oh somewhere. Tu sais, le truc.
Mais vous n'étiez pas très tendre parfois. Est-ce que vous regrettez certaines réflexions, Marianne James, par exemple?
Non.
Vous assumez tout.
Assume toutes. Ouais. Pourtant, il y en a quelques-unes qui ne sont pas piquées. Sur le physique, notamment. J'ai attaqué des filles aussi rondes que moi, etc. Je me permettais, en étant moi-même.
On pourrait plus
bien
le faire aujourd'hui.
Non, je pense que je ne pourrais plus le faire. Mais on m'a demandé de revenir là-dessus. J'ai envie de dire, je ne vais pas réécrire toute l'histoire.
Vous chantez comme une vieille péripate, comme les professionnels qui font l'amour sans prendre de plaisir.
C'est André.
Vous chantez comme un ténor italien, mais plutôt pizzaiolo. Si, bah, décidément. Voilà, ça c'est le florilège continue. Hein. Lui, en 2003, il rêvait encore de percer dans le rock. Il ne savait pas qu'un jour, il reprendrait Vanina avec Dave et pire, qu'il aimerait ça.
Ah, ça j'aimais.
Quentin, chaque après-midi aussi, je crois. Chaque vendredi, vous descendez aux archives de l'INA pour nous faire revivre en son une année marquante aujourd'hui, donc 2003.
Le 17 mars 2003, un ultimatum part de la Maison Blanche.
Cette fois, le compte à rebours est lancé. Il ne reste plus que 30 heures avant l'expiration de l'ultimatum de George Bush. Hier soir, le président américain a été très clair. Pour Saddam Hussein et les siens, c'est l'exil ou la guerre.
Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis accusent l'Irak d'entretenir des liens avec Al-Qaïda et de développer des armes de destruction massive. La légitimité et les motivations de cette guerre font débat.
Bonsoir. L'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis dans toutes les grandes capitales et les grandes villes, des dizaines de milliers de manifestants pour dénoncer la logique de guerre américaine contre l'Irak. 100 000 manifestants à Washington, 6 000 à Paris.
En France, le président Chirac dit non.
L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate.
Et pourtant, le 20 mars 2003...
C'est donc à 3h32 précisément, 1h30 après la fin de l'ultimatum, que les premières sirènes ont retenti à Bagdad. La guerre a donc démarré en Irak.
Saddam Hussein sera finalement capturé le 13 décembre dans une cachette souterraine près de Tikrit. La guerre en Irak durera 8 ans. En 2003, à la radio, dans les soirées, dans les booms, dans les booms du collège, on kiffe la vibe.
Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec.
Ça c'est... la vie. À ce qu'on me prenne la tête.
Laisse-moi kiffer.
Non.
Le duo Manon Mariani, Marianne Jeanne, j'avais pas attendu.
Oui, on l'avait pas vu venir.
Voilà. Bon, bref, on kiffe, on danse, l'été arrive.
Non.
L'été arrive, on a chaud, très chaud, trop chaud même. À partir du 1er août en France, on suit attentivement la météo d'Evelyne Delia sur TF1.
Madame, monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver, mais c'est toujours sous la canicule. On a d'ailleurs battu des records de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest. Alors, par exemple, cet après-midi à Castelsarrasin, à Cazaux ou à Montauban, vous avez eu 41,8 degrés.
Et ça a duré plusieurs semaines, mettant les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite et le personnel soignant à rude épreuve.
C'est donc une situation exceptionnelle qui frappe le pays. La canicule qui dure depuis plus d'une semaine maintenant pourrait être à l'origine d'une cinquantaine de décès en 4 jours en Ile-de-France.
On a énormément de gens, beaucoup de personnes âgées qui viennent parce qu'ils sont déshydratés et on ne sait pas où les mettre. Il faut les hospitaliser parce qu'évidemment il faut les réhydrater et actuellement on ne sait pas où les mettre parce qu'il n'y a pas de place nulle part.
15 000 personnes décèdent dans la canicule en France, dont une majorité souvent de personnes âgées. L'interview lunaire du ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, en polo noir, en duplex depuis ses vacances dans le Var au 13h de TF1, fera polémique. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, un drame marque la France.
Marie Trintignant est depuis hier dans le coma dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Pour l'instant, on sait simplement que l'actrice s'est violemment disputée avec son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat du groupe Noir Désir. Les circonstances exactes restent floues.
On suit le rapatriement de l'actrice plongée dans le coma. Souvenez-vous des images de sa mère qui cache son visage alors qu'elle est transférée à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. Et puis l'annonce.
Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Je vous remercie.
À l'époque, on parle de dispute, de gifle, on emploie même le terme de crime passionnel. Mais il n'y a qu'un seul mot pour qualifier ce crime, c'est féminicide. C'est sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat, que Marie Trintignant a perdu la vie. En 2003, on prépare l'agrandissement de l'Europe.
Les Polonais se sont finalement mobilisés. Victoire très nette du oui au référendum d'adhésion à l'Union européenne, avec 77% de votes favorables et presque 60% de votants.
Au total, 9 pays ont dit oui à l'Europe. Malte, la Slovénie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie et la Lettonie. Et pour finir, le 21 avril 2003, on perd une immense voix et une personnalité hors norme.
Une diva rebelle, une voix du jazz, ce sont les qualificatifs qui viennent à l'esprit ce matin pour parler de Nina Simone. La chanteuse américaine est morte hier chez elle, près de Marseille. Elle avait 70 ans, auteure de l'inoubliable My Baby Just Cares For Me ou encore interprète de I Put A Spell On You.
I put a spell on you.
Et c'est sur cette voie addictive que je referme ce complètement aux archives. Marianne James, André Manoukian, un mot peut-être sur la voix de Nina Simone qu'on entend derrière nous.
Oula, c'est comme, comment vous dire, ça reste des sommets indépassables. Et ce qui est fou, c'est qu'elle chante par hasard. C'est-à-dire qu'à la base, elle voulait être pianiste classique. Et comme elle était black dans l'Amérique des années 50, impossible de, voilà, on concevait pas à l'époque ils étaient très rares ceux qui arrivaient à faire une carrière classique. Donc, par dépit, fallait bien qu'elle donne à manger à ses parents. Elle s'est mise à jouer dans un bar. Et le patron du bar lui a dit, écoute, ça m'intéresse pas ton piano. Si tu chantes pas, tu dégages. Du coup, elle s'est mise à chanter.
Merci à lui, finalement.
Merci.
Il a poussé vers le chant. Marianne James et André Manoukian sont nos invités dans ce Zoom Zoom Back spécial 2003, année de l'arrivée de la nouvelle star en France. Marianne, André, on a parlé Christophe Willem, l'année suivante c'est Julien Doré qui a remporté l'émission. Est-ce que ce sont eux vos plus grandes fiertés ?
Pour moi, oui.
Pour moi, les plus meubles. Moi, franchement, les plus grandes fiertés, c'est tous. C'est de voir qu'ils sont toujours là, qu'ils ont marqué, que quand je vois Amel en Beyoncé postmoderne et tout, putain, ça fait du bien, quoi. Et puis, de voir l'intelligence qu'ils ont eue pour continuer leur carrière aussi, c'est ça qui est.
Et justement, est-ce que vous avez un rôle dans la suite de leur carrière ? C'est des gens avec qui vous êtes restés en contact pour leur donner parfois du petit conseil ?
C'est vrai, récemment, Julien Doré a organisé un karaoké. pour ses fans et il nous a demandé à Marianne et moi de venir faire le juré. Et là, je dis, c'est notre rêve, notre consécration. Déjà qu'on se tapait des casseroles, là, on va se taper
non,
des...
Alors, non, il a vraiment insisté pour qu'on soit cache. Ouais. Et effectivement, alors nous, ça, alors, on a fait ça, mais alors... On nous l'a redemandé, c'est reparti. Hein.
On s'est éclaté, mais de le voir aussi, surtout, j'allais dire, avec son intelligence, avec son humour.
Son sosie.
Poursuivre, et puis il n'a pas changé. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, je dirais qu'on ne change pas. On ne peut pas changer. On est le même, mon père, il disait, on est le même à 12 ans et toute sa vie, au fond, quelque part. Ils étaient finis d'un point de vue artistique. Mm-hmm. Après, ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ne se sont pas égarés, qu'ils ne se sont pas perdus, quoi.
Nouvelle Star, à l'époque, c'était quand même très suivi par les jeunes, par la jeunesse. Les candidats, c'était vraiment des stars, alors qu'ils n'avaient même pas gagné. Vous le mesuriez, ça, à l'époque, l'effet Nouvelle Star ?
Quand on attaquait l'émission, vraiment, la vedette, c'était nous quatre. Je dis bien la vedette. Mmh. On était à quatre pour faire une vedette. Et on voyait vraiment le changement de position des gens. Et ce que tout d'un coup, on se faisait énormément applaudir à Baltard quand on arrivait. Mmh. Et dès la deuxième émission, ça y est, les gamins avaient pu prendre connaissance de tout le casting. Et nous, dans ce cas-là, sagement, on se retirait du game.
Il y a eu un effet Julien Doré quand même, non ?
Ah ouais, là, ça t'allait très loin. Ouais.
Non, je suis désolé.
Christophe Willem avant.
Mais avant, il y a l'effet Steve Estatoff, on l'a oublié. Mais
ah oui, on l'a oublié.
Manon l'a pas oublié.
Non. Les gens nous remerciaient parce qu'ils disaient, et grâce à Steve, on peut voir du rock, en prime sur une grande chaîne nationale.
Si vous saviez la bagarre qu'on a menée avec Katché, Atia, toi, André et moi, une bagarre avec M6 que j'embrasse parce que je bosse toujours avec eux, avec la direction d'M6 pour avoir une spéciale rock. Mais dans la spéciale rock, ils nous sortent une playlist de ce que les gamins vont chanter. Et il y avait Calogero, Obispo, Johnny, un peu les chats sauvages, des choses comme ça.
Non. Ah, les chats sauvages.
Je vous jure. Mais si, les chats sauvages. Mais pourquoi pas, c'est rock.
C'est rock.
Cette histoire-là, enfin, le côté un peu blouson noir, mais même Calogero. Et on leur disait, mais Calogero, on l'a déjà pris pour les duos romantiques. Oui. Calogero, on l'a déjà pris pour les chansons françaises. Et du coup, on leur a fait une liste. Rolling Stone, Kiss, Beatles. Rammstein,
ils ont dû un petit peu tiquer.
Non, mais sur Nirvana. Et on leur a prouvé que ça marcherait. Et c'était une des émissions où il y a eu le plus d'audimat, la spéciale rock.
Il y a peut-être une fois où la prod a eu raison, c'est de rappeler Julien Doré que vous aviez renvoyé Marianne James. Il devait pas passer son casting.
Quelle honte.
Vous avez dit non, et la prod a dit non, on va le rechercher.
Et apparemment, il m'en veut pas. Oui, il passe devant nous et il arrive avec son ukulélé. Et c'était le énième chanteur qui arrivait devant nous. Et c'était clair, on l'avait dit, redites-leur, le premier titre qu'il chante, c'est A-K-P-L-A. Voilà. Et si on aime, ben volontiers, on écoute derrière un petit bout avec l'instrument. Voilà. Et lui, il arrive, il veut jouer directement avec son ukulélé. Je dis, ah, pas de chanson A-K-P-L-A, donc la porte est là, merci, dehors.
On a failli rater Julien Doré, à cause de cette règle.
Quel drame.
2003, une année inoubliable pour la musique, mais aussi pour les jeux vidéo. Jamais on ne s'était entretué avec autant de réalisme. Manon nous raconte la naissance de Call of Duty, juste après Dali. Tout va bien sur Inter.
Elle me remporte le matin élégant. J'ai beaucoup de défauts, avec elle je mets les gants. Avec elle je mets les gants. Je sais que je suis chelou de temps en temps. Je lui dis des mots d'amour dans l'oreille de temps en temps. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est juste le timbre de ta voix ou la courbure de tes fesses. J'aime bien quand t'es là, que tu montres comment faire. Et chuchote que ça va avec ses yeux brillants pour le ciel.
Tout va bien, t'es belle, tu le portes bien. Je me dis que tu ne portes rien, tu peux voler si tu te penches bien. Hein, tout va bien.
J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait.
2003, l'autotune n'existait pas encore, malheureusement pour Manon Mariani, qui sortait donc un premier single que la presse spécialisée qualifiera de harmoniquement problématique. Mais 2003 sera marqué par une autre première fois, plus payante celle-là. On parle d'un jeu vidéo, Manon.
Pendant l'hiver 2003, alors que certains se ruent dans les salles chaudes des cinémas pour aller découvrir Love Actually et que d'autres sont devant leur télévision en hésitant à voter pour Nolwenn ou pour Emma, Team Emma pour ma part, ceux qui préfèrent jouer aux jeux vidéo devant leur ordinateur vont être servis, car c'est à ce moment-là que le premier opus d'un jeu événement sort dans le monde entier.
When their country needed them, they answered the call. Call of Duty.
Call of Duty est disponible pour tous les gamers qui veulent jouer à la guerre sur PC et sur Mac. Il n'y a pas encore de version console, ça va arriver vite. Call of Duty, Call of, pour les plus connaisseurs, est édité par Activision. À l'époque, l'entreprise était surtout connue pour un autre jeu vidéo, pas du tout dans le même univers.
It's Tony Hawk's Pro Skater 3, with 8 massive living levels that let you trick off of everything.
Tony Hawk Pro Skater, le jeu qui a bercé tous les millennials comme moi, fans de Linkin Park et d'Avril Lavigne, qui rêvaient de faire du skate avec Venice Beach. Bref, autre ambiance donc
Marianne
avec
Marianne est en train de décéder à côté de vous.
Autre ambiance donc avec Call of Duty, un jeu de tir à la première personne qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est possible de jouer trois types de soldats, américains, anglais et russes. Le but est d'enchaîner les missions et surtout ce qui plaît, c'est le mode multijoueur. On est en 2003 et les cybercafés sont devenus the place to be pour les jeunes qui y jouent en réseau. Plus de 50 personnes peuvent jouer à la même partie de Call of Duty en même temps, le Fortnite des années 2000. Call of Duty commence petit à petit à se faire un nom, notamment parce que les jeux de guerre à l'époque sont très rares. Celui qui a fortement inspiré Activision est sorti 4 ans avant, Medal of Honor.
Electronic Arts and DreamWorks Interactive present Medal of Honor.
C'est ce jeu qui a lancé la mode de ce qu'on appelle les FPS, First Person Shooter, donc les tirs à la première personne. Il est sorti sur PlayStation 1 et c'est à Steven Spielberg que l'on doit. Et oui, le réalisateur s'est inspiré de son propre film Il faut sauver le soldat Ryan et a proposé au studio DreamWorks d'en faire un jeu vidéo. C'est comme ça que naît Medal of Honor, créé par le studio de développement Infinity Ward. En 2003, c'est donc le studio de jeux vidéo à la mode. Activision va donc carrément se le payer pour qu'ils produisent Call of Duty. L'équipe sait très bien ce qu'elle fait et améliore donc juste son propre travail, plus de design réaliste, de scènes interactives, de scénarisation. Call of devient Medal of Honor, mais en mieux. Résultat, les critiques des médias spécialisés sont dithyrambiques, le jeu est une réussite. Ce premier opus se vend à 6 millions d'exemplaires. Un bon début pour Activision qui pense déjà à l'après. Le studio sort de suite, cette fois-ci sur console. Call of gagne de plus en plus de popularité, mais n'a pas encore son hit. Il arrive en 2007, la franchise Call of Duty va connaître un véritable tournant avec la sortie de Call of Duty 4 Modern Warfare.
Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture.
Pour la première fois, le jeu ne se déroule plus pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à l'époque moderne. La Russie est en pleine guerre civile et les gentils Américains et les gentils Anglais doivent venir sauver le pays.
Un scénario qui ne marche plus du tout aujourd'hui.
Un scénario un peu trop patriote qui sera le principal reproche fait aux différents jeux Call of Duty. Mais au-delà de ça, Modern Warfare est un véritable carton. La PS3 vient de sortir, le gameplay du jeu est amélioré, les graphismes sont toujours plus réalistes. Il est élu jeu de l'année, meilleur jeu vidéo de tous les temps, meilleur jeu d'action par différents sites spécialisé. Un an plus tard, il s'en est écoulé plus de 15 millions d'exemplaires et c'est là le début de la vraie success story de Call of Duty. Depuis, 16 autres éditions du jeu sont sorties, la franchise s'est fait une place de choix auprès des gamers du monde entier. Des événements Call of Duty sont organisés, notamment des compétitions d'e-sport où les meilleurs joueurs s'affrontent. Je suis moi-même partie à Los Angeles, sachez-le, quelques années, pour aller faire un reportage sur le Call of Duty Championship. C'était impressionnant à voir, comme une compétition de foot en fait, sauf que c'est pas Mbappé ou Messi que les gens vont voir, mais Hydra, Crim6, Karma, Tipeee, les meilleurs joueurs du monde de Call of Duty. Fin 2024, Call of Duty a dépassé les 500 millions de jeux vendus dans le monde. Le dernier en date, Black Ops 6, a été le jeu le plus vendu l'an dernier. Des chiffres qui font aussi la joie de Microsoft, qui a racheté Activision en 2023 pour la somme record de 68,7 milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle de l'argent bien dépensé.
68,7 milliards de dollars, c'est précisément ce qu'aurait touché, d'après ce qu'ils nous disent en tête, Marianne James et André Manoukian pour les dernières saisons de La Nouvelle Star, quand c'était enfin un peu plus payé que sur Radio Pologne. La Nouvelle Star, ça a duré 13 saisons, c'est devenu une émission culte. Aujourd'hui, on comparait tout à l'heure avec la Starac, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. La Starac, c'était clairement plus télé-réalité, vous, c'était télécrochet. Il y a The Voice aujourd'hui, qui met en avant la voix plus que tout, plus même que le physique. Parce qu'il y avait ce côté, on ne s'intéresse pas au physique dans The Voice. Est-ce que ça, c'est une émission dans laquelle vous vous reconnaissez un peu plus, ou c'est encore différent?
Ah, c'est indéniable qu'il y a des chanteurs incroyables qui arrivent après le... Moi, j'avais un débat, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de se retourner, toute cette mise en scène, ça, c'était un peu dramatique et tout. Et pourtant, Dove, parce qu'il faut qu'on parle de Dove quand même, parfois on le regardait, il fermait les yeux, et je disais, mais Dove, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mais c'est pour voir, parce qu'il fermait les yeux, il ouvrait les yeux,
Pour pas être influencé
par le physique.
Donc, mais finalement...
Il finissait par les ouvrir.
Et là, voilà.
Et son choix a été fait.
Quand même, un monde d'offre, je l'embrasse.
La Star Academy a été relancée par TF1. C'est on peut dire un véritable carton quand même. Si on vous proposait une nouvelle saison de Nouvelle Star, vous diriez oui? Vous pensez que ça marcherait aujourd'hui?
Si on était tous les quatre, moi j'ai dit à Alicis que j'étais d'accord. Vraiment d'offre, vraiment, mais vraiment Manu.
Parce que vous avez été le meilleur juré, enfin les quatre.
Oui, c'est vrai.
André, vous êtes plus circonspect. Est-ce que vous signeriez-vous?
Ah bah oui, non, mais c'est comme si vous dites, est-ce que, tu vois, si je sais pas, si la gauche revenait au pouvoir, enfin tu vois, c'est des trucs tellement irréalistes.
Il est sur France Inter, il se lâche, André.
Voilà,
mais
c'est vrai.
Là, ça peut être réaliste quand même.
Non, parce que l'eau a coulé. C'est
ça pas, dépend, voilà. Si un jour il nous le redemande. Le problème, c'est qu'à un moment, comment vous dire, les jeunes, vu son âge, j'étais la plus jeune du quatuor, mais là, maintenant, ça sent la bouillie.
Après,
est-ce qu'on entendra aussi bien?
Après, il y a le concept de l'immortalité selon Spinoza, raconté par Gilles Deleuze,
mais. On s'éloigne du bouddhisme. Et aujourd'hui, vous pensez que pour lancer une carrière dans la musique, ça manque une émission comme Nouvelle Star? Ou bien aujourd'hui, justement, le métier a changé?
Ils ont les réseaux maintenant. Quand ils sont malins, ils font tout, ils font vraiment tout. Ça, avec leurs applications, ils vont même pas en studio. Ils font masteriser, mais...
Pour créer une star,
c'est compliqué en réalité. Justement, parce qu'avant, il y avait des labels... qui était comme 9 gardiens pour entrer dans la piscine. Aujourd'hui, tout le monde rentre dans la piscine. Donc, du coup, tout le monde se noie, puis je te dis pas l'état de l'eau, quoi. Donc, comment tu fais pour exister alors qu'il y a quand même 100 000 nouveautés par jour, quoi, sur les plateformes de streaming, et 150 000 le vendredi. Donc, pour exister...
Moi, ce que je trouve génial, c'est ces vieilles chansons qui repartent dans un film ou sur le net, et qui tout d'un coup, il y avait Kate Bush avec...
Stranger Things.
Et la dernière, je sais pas, les Japonais sont fous de Piaf en ce moment. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font dans les stades? Ils ont retrouvé ça. Tous les Japonais chantent Piaf en ce moment.
Céline Dion au JO, quand elle a repris l'hymne de l'amour.
Ah oui, c'est ça, l'hymne de l'amour.
Donc voilà, l'hymne de l'amour.
Ils y vont carrément avec Piaf.
Ah bah oui, ils ont dû remonter le fil.
Mais je trouve ça génial que des chansons, pas oubliées, mais débarquent un peu dans la vie des jeunes gens.
Elle nous a rejoint en studio, son psy insistait pour qu'elle reste sur un rythme de 4 chroniques par semaine. Son banquier lui a dit, Madame de Breuer, ça serait bien quand même de faire le vendredi aussi. Bonjour Marie.
Bonjour, et qu'est-ce qu'elle fout là, la Marie? L'oseille, vous l'avez dit. Une chronique sur la Nouvelle Star. Voilà, parce que je crois bien qu'elle est devant vous, la Nouvelle Star. Ciao.
Avant de basculer dans l'hilarité avec vous Marie, je vous propose de revenir sur 2003 en musique avec notre spécialiste. Bonjour Camille Diao.
Salut Mathieu.
Camille, chaque semaine dans Rétropop, vous passez l'année au prisme de la pop musique. 2003, c'est l'année de naissance d'un riff de guitare devenu culte.
Oui, un riff simple, dépouillé, mais terriblement efficace. 5 notes, une guitare qui sonne comme une basse, et puis vient la batterie. Le rythme est tout droit, presque martial, le combo minimaliste, mais assez percutant pour marquer instantanément l'histoire du rock. Seven Nation Army, c'est le nom du morceau. Le groupe, c'est les White Stripes. Quant au riff, comme toutes les meilleures recettes, il est né un peu par hasard. En janvier 2002, Meg et Jack White, le duo qui forme les White Stripes, donnent un concert à Melbourne. Pendant les balances, Jack improvise sur sa guitare et il sent immédiatement qu'il tient quelque chose. Contre l'avis de son label, il insiste pour en faire le premier single de leur album à venir, Elephant. Bien lui en a pris. Oh, Alors quand le morceau sort, faut savoir qu'il y a eu une petite méprise sur son sens. Cette armée de sept nations est interprétée par certains comme une prise de position contre la guerre en Irak. D'ailleurs, les White Stripes ne vont pas s'en priver, mais quelques mois plus tard. Parce que quand le morceau sort, le 7 mars 2003, on est très exactement 13 jours avant l'invasion américaine. En réalité, Seven Nation Army, c'est une référence à l'enfance de Jack White. Petit, il n'arrivait pas à prononcer correctement Salvation Army, le nom anglais de l'armée du salut.
C'est un peu comme si le morceau s'appelait l'armée du chahut.
Oui, ce sera à peu près ça en français, effectivement. Ça ne va pas empêcher le morceau de marquer l'apogée du grand revival rock du début des années 2000. Après les années 90 marquées par l'essor du grunge, l'industrie a comme bien souvent rattrapé, digéré, standardisé le genre. Mais au tournant du siècle, une bande de jeunes rockers vont lui donner un nouveau souffle en allant puiser dans l'énergie brute du rock garage des années 60-70. Alors à Détroit, ce sont les White Stripes, à New York, les Strokes. Et en Angleterre, les Libertines. Alors j'aurais pu en citer d'autres, hein. Il y a aussi les Yeah Yeah Yeahs ou encore Interpol. Toute cette scène en 2003, elle est bien vivante, mais elle reste encore cantonnée aux pages musique des magazines branchés. C'était Seven Nation Army, c'est le morceau qui va un peu tout changer. Il remporte un Grammy Award et va contribuer à propulser cette nouvelle vague dans le mainstream. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Et là, tous les supporters de foot qui nous écoutent voient très très bien où je veux en venir. Seven Nation Army devient un hymne de stade. Et ça, Marianne, on le doit aux supporters du FC Bruges qui l'entament pour la toute première fois lors d'un match contre Milan en Ligue des Champions en octobre 2003. Trois ans plus tard, ils se déplacent à Rome et ils se font tout bonnement piquer le champ par les supporters du camp adverse. On les connaît, ces Italiens, aucun scrupule. Ils vont même...
Vous faites bien de le dire.
Ils vont même en faire leur hymne pour la Coupe du Monde 2006. On n'a pas peur du remix en Italie. C'est donc sur cette air que la Squadra Azzurra l'emporte en finale contre les Bleus.
Sur cette air,
l'Italie célèbre sa victoire pendant que nous, en France, on essaye de se remettre du fameux coup de boule de Zizou.
Donc les White Stripes ont quelque part enterré notre I Will Survive de 98, Camille.
Oui, bon, c'est difficile d'en vouloir aux White Stripes, surtout qu'à ce stade, franchement, tout le monde ou presque a oublié d'où vient le morceau au départ. Ce pop-pop-pop-pop va voyager de stade en stade, de sport en sport. On l'entend même pendant la révolution de 2011 en Égypte sur la place Tahrir. Et ça, ça touche beaucoup Jack White. Il dira même « Rien n'est plus beau que lorsque les gens s'emparent d'une mélodie pour la faire entrer au panthéon de la musique populaire ». Enfin, il y a quand même une fois où ça lui a un peu déplu à Jack White, c'est lorsque Donald Trump l'a utilisé. Pas content, il se fend d'une réponse lapidaire « Ne pensez même pas à utiliser ma musique, bande de fascistes ». Et contre Trump, les White Stripes vont recevoir un soutien improbable. Donald Trump is a wanker. Traduction, Trump est un connard, dans le style de Jean-Sébastien Bach, s'il vous plaît.
Mais on peut lui faire dire ce qu'on veut à cette chanson, en fait.
Oui, et c'est tout le talent et la chance aussi peut-être un peu des White Stripes. Ils ont accouché d'une mélodie qui semble immédiatement familière, un peu comme si elle avait toujours existé quelque part dans notre inconscient collectif. Et je crois qu'on touche là à l'essence même de la pop, une musique populaire au premier sens du terme.
Merci beaucoup Camille, et même si ça doit chagriner Quentin qui aurait voulu à ce stade de l'émission qu'on écoute Florent Pagny, on va plutôt écouter les White Stripes, Seven Nation Army sur Inter.
Come in from my eyes, just leave it alone.
Et l'équilibre d'un compte courant a ses raisons que la raison ne connaît pas, surtout quand on est intermittente du spectacle. Voici pourquoi on retrouve à présent, ici même le vendredi, notre chère Marie de Breuer. Vous aussi, vous êtes penchée sur 2003, la naissance de la nouvelle star, et on le sait peu, mais avant d'être humoriste, eh ben, vous aviez envisagé une carrière dans la chanson.
Bah ouais, enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais ça fait bien de dire des trucs comme ça en début de chronique, voilà, face à des professionnels, voilà, genre devant des musiciens, que t'as toujours voulu être chanteuse, devant un peintre, que t'adores le dessin, devant un réalisateur, dire que tu diras rien à Mediapart s'il frotte son zizi sur ta cuisse, il te donne le rôle, enfin ce genre de petites précisions. Donc oui, voilà, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Je me mettais face aux grosses enceintes du salon, des énormes enceintes très très chères. Mes parents n'étaient pas particulièrement mélomanes. Hein. Ma mère était fan de Bobby Lapointe, le chanteur qui faisait des calembours et des contrepétries. Bon, ça explique peut-être la direction que prend ma carrière. Mais voilà, ils n'étaient pas particulièrement mélomanes. Ils adoraient dépenser de l'argent. Voilà, donc on avait des grosses enceintes. Et moi, je chantais seule pendant des heures et des heures avec mon t-shirt 100% chippie. 100% chippie, mais zéro pote, apparemment. Je mettais l'album pur de Lara Fabian en boucle et j'étais comme une folle. Évidemment, tout le monde connaît la chanson Je t'aime hein, de l'album, mais c'était Si tu m'aimes, moi, ma préférée, parce que j'étais 100% chippie et cool. Chanson dans laquelle Lara Fabian dit « Je quitterai tout si tu m'aimes, tu penses encore à moi, je le sais, dis-le-moi que tu m'aimes. » Et ça, c'est explique peut-être la direction qu'a pris ma vie amoureuse. Une grosse forceuse, voilà. Attention, c'est moi que Mediapart va choper par le callback. Et là, vous vous dites « Marie, ma petite puce !» Et moi, je me dis « Tiens, c'est un peu familier comme surnom. » Et vous vous dites « Marie, ma petite puce, quand est-ce que t'arrêtes de tourner autour du pot du sujet du jour ?» Mais oui, je tourne autour du pot comme une mouche qui tournerait autour d'un pot. Mais ça serait un pot de confiture, n'importe quoi. Ça vous fait pas gueuler, c'est pas grave. Imaginez une petite mouche, quoi. Bon, mais c'est parce que j'ai accepté voilà, de faire ces chronique le vendredi en me disant « Cool, trop bien, pas d'actualité, on revient sur la nouvelle star, Manon était on fire, elle m'a hurlé dessus toute la semaine, hey « Hé Marie, tu vas à Baltard !» Moi je comprenais pas, parce que je vais vous l'avouer, j'ai pas regardé la nouvelle star.
Mais
voilà, mais oui, à la maison, on avait des grosses enceintes, mais pas de télé, voilà. C'est les paradoxes de la gauche caviar, on achète des trucs chers, mais on n'a pas de téloche. Mais Marianne James, ça me fait quelque chose de vous rencontrer, enfin de te rencontrer peut-être, voilà, on se follow sur les réseaux, donc ce qui est l'équivalent je pense d'être pote d'enfance aujourd'hui. Ma tante m'a dit un jour que je te ressemblais, t'as un air de Marianne James qu'elle m'a dit, et j'avoue, moi je vois pas de ouf la ressemblance, déjà ma qualité de cheveux est médiocre comparée à la tienne, après souvent on me confond, hein. Il y a quelques mois on m'a dit bah c'est toi qui as mixé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et bah non loupé c'était Barbara Butch, que j'embrasse bien sûr. Une autre fois on m'a félicité pour mon concert, alors que la chanteuse de November Ultra était encore sur scène. Mais quel est le point commun entre Marianne James, Barbara Butch, November Ultra et Marie de Breuer? Oh bah disons qu'on retient pas forcément ce qu'on fait dans la vie, mais on adore commenter à quoi on ressemble. Heureusement que je suis brune, hein, parce que sinon on m'aurait félicité d'avoir présenté le maillon faible. Alors que c'est Valérie D'Amido, bien sûr, tout le monde le sait. Oh là, putain, je crois que j'ai fait une boulette. Ah, je vais à Baltard.
Merci, Marie de Breuer.
C'est vrai, en plus.
Et si j'ai bien compris, on vous retrouve vendredi prochain. Ça vous arrange par rapport à l'argent.
Oui, tout à fait.
Tous les vendredis. C'est très bien. Merci beaucoup, Marianne James et André Manoukian, de nous avoir fait revivre les premiers temps de la nouvelle star sur M6. C'était 22 ans, donc Cyril Hanouna débarque dans le groupe M6, si tant est que ça se fasse. Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
No comment.
Ah oui, Marianne?
Ça me casse les bonbons.
Ça vous casse les bonbons, et au moins c'est passé. J'ai complètement. Vous êtes quand même les meilleurs invités du monde parce que j'ai pas fait votre promo de toute l'heure et vous m'avez pas sauté à la gorge. Marianne, vous êtes demain et dimanche à la Cigale à Paris pour votre spectacle. Tout est dans la voix. Mm-hmm. Puis en tournée dans toute la France. C'est quoi ce spectacle?
Ah bon, on a le temps d'en parler. C'est une chose extraordinaire que je fais avec beaucoup d'humilité, oui. Où je vais apprendre aux gens à chanter, à réveiller leur instrument, du plancher pelvien jusqu'au résonateur, car nous avons un plancher pelvien. Voilà.
Manon sera au premier rang.
Oui, oui.
André,
avec Quentin.
On peut vous voir sur scène du 26 mars au 1er avril, Les Notes qui s'aiment.
C'est une histoire de la musique telle que vous ne l'avez jamais entendue.
Ah, l'histoire de la musique par
ouais,
la musique.
Par exemple, pour rebondir sur la chronique de Camille, en fait, peut-être que le succès de ce riff de des White Stripes, ouais. c'était peut-être la gamme pentatonique. Vous savez que la gamme pentatonique réunit toute l'humanité, et celle-ci, que dans Rencontre du Troisième Type, à un moment donné, ils veulent communiquer avec les extraterrestres, et ils disent, et si on faisait la gamme pentatonique ? Alors c'est dan, mais il aurait pu faire dan.
Ça marche aussi.
Ouais, ça marche aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas de bouddhisme dans ce spectacle ?
Si, il y a la spiritualité, vous savez, la musique. La musique, c'est des mathématiques, de la spiritualité et du cul. Alors,
allez voir André en spectacle. Et Marianne, merci à tous. Manon, Marie, Quentin, Camille, tous ceux qui en régie nous aident à préparer cette émission. Alexia Lacour, Florence Gimalac, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Darnaud. Émilie Lacot de Lina, qui avec beaucoup d'humour a signé son mail Émilie Vador, afin qu'elle soit autant honorée que sa consœur qui s'appelle Samia Jedi. Ça nous fait beaucoup rire ici. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana. À la technique, Arnaud Caillé. Lundi, on se retrouve à 16h pour plancher sur une expression que vous entendez beaucoup, mais que signifie-t-elle vraiment ? On zoomera sur le concept de la fenêtre d'Overton, où comment ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Il est possible qu'on parle de Trump.
Zoom, zoom, zen.